Alors, vous parlez de toute cette histoire-là, ça prendra des heures, c'est pour ça que je serai très bref, de façon dans 5 minutes, à vous rendre votre liberté. Alors, l'opération Fortitude, ce jeune homme vient de vous parler de l'opération Cockade. Si vous voulez, en 1942, la fin 1942, où je me trouvais moi-même à ce moment-là en Algérie avec les Britanniques, le cours de la guerre a changé. Et c'est là que Winston Churchill, qui a jusqu'à présent essuyé un peu les plâtres, a déclaré « ce n'est pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement ». C'est-à-dire, vous aviez la victoire d'El Alamein, qui se trouvait en Libye, où Montgomery, à ce moment-là, a repoussé Rommel. Vous aviez le débarquement en Afrique du Nord, qui était l'opération Torch, en Algérie, où à ce moment-là, les Anglo-Américains faisaient rallier l'Afrique du Nord de Pétain. Et vous aviez Stalingrad, qui s'est déroulé jusqu'en janvier 1943. À ce moment-là, c'était le coup d'arrêt à la ruée de la Wehrmacht, non seulement vers la Russie, mais surtout vers le pétrole de Bakou. Vous savez que la Wehrmacht, les Allemands, ont très très peu de pétrole. Donc leur objectif, ils faisaient des carburants synthétiques à qui faisaient tourner les panzers de la Wehrmacht. Et leur rêve, c'était de trouver les pétroles de Bakou, qui était à ce moment-là un grand gisement, d'une part, c'est-à-dire le but de l'armée allemande, d'un côté par la Stalingrad, de descendre ensuite la Volga en direction du Moyen-Orient, jusqu'à Bakou, en Azerbaïdjan, et pour Rommel, lui, de passer, de conquérir l'Égypte, traverser l'Égypte, et d'arriver en Irak et en Iran, où c'était le bassin des pétroles du Moyen-Orient à ce moment-là. Et alors, ces deux défaites ont été telles que vraiment, si Hitler ne pouvait pas arriver aux sources de pétrole, on estimait que la guerre était pratiquement gagnée. À long terme, mais gagnée quand même. À ce moment, Staline, qui poussait des hurlements en Russie en disant qu'il supportait, l'armée rouge supportait tout le poids de la guerre, on essayait de le calmer. Donc Churchill a décidé... Mais il était absolument impossible, alors qu'on préparait l'invasion de la Sicile et de la botte italienne, on ne savait pas si on allait pouvoir remonter rapidement d'Italie vers la France et vers le centre de l'Europe. À ce moment-là, il a fallu imaginer, Churchill a imaginé avec son état-major, un faux débarquement qui aurait lieu en Europe, probablement en France, c'était toujours la France, alors que la France était à quelques kilomètres de l'Angleterre, on pensait bien qu'il y avait un débarquement, une offensive un jour, un retournement de situation, ça partirait par la France et éventuellement la Normandie. Donc Churchill a pensé à faire une fausse invasion, une de plus, qui s'appelait Cockade. Cockade, ça veut dire cocarde, une cocarde, voilà. Alors, il n'y avait absolument aucun moyen de réaliser cette invasion, parce que presque toutes les forces amphibies et tous les moyens de débarquement étaient utilisés, étaient préparés en Afrique du Nord pour envahir la Sicile et l'Italie. Donc, il fallait que ça soit entièrement bidon. Il n'y avait rien. Voilà. Non seulement pour tromper Hitler, mais pour tromper Staline. Faire croire à Staline pour l'apaiser en disant oui, on vous fait un débarquement. Et pour tromper ça, il fallait mettre les Allemands en alerte. De telle sorte qu'au moins, les Allemands étant en alerte, Staline était au courant en disant « ils vont vraiment débarquer ». Donc, vous avez à ce moment-là une opération qui s'est montée, cette opération Cockade, à partir des réseaux, un peu tous les réseaux d'action qui se trouvaient en France, c'est-à-dire de l'organisation à laquelle j'appartenais, qui s'appelait le Special Operation Executive. C'est-à-dire nous étions, nous, l'armée privée, de Churchill, chargé de faire des sabotages, d'armer les maquis, de faire des embuscades, etc., et éventuellement des exécutions. Des exécutions, il y en a eu bien très très peu, enfin, exécuter des hauts dignitaires allemands, si vous voulez, sauf le seul a été Heydrich, qui était le gouverneur de Tchécoslovaquie, qui était pratiquement le troisième... Le numéro 3 dans le Reich, après Himmler, devant Göring sûrement, qui était un sadique et un extraordinaire, et sur lequel Hitler comptait, après avoir, comment dirais-je, exploiter la Tchécoslovaquie, qui était à ce moment-là l'arsenal du Reich. Vous savez que la Tchécoslovaquie, avant-guerre, avait des usines importantes comme Tatra, Skoda, et les usines de Brno, et même le fusil mitrailleur anglais en service dans l'armée anglaise s'appelait le Bren Gun, parce qu'il avait été, à l'origine, c'était des plans tchèques. Donc Heydrich était en Tchécoslovaquie, à Prague, gouverneur. Il a absolument réalisé, si vous voulez, l'esclavage de toute l'industrie tchèque. D'autant plus qu'elle se trouvait, à ce moment-là, la Tchécoslovaquie se trouvait très près du front russe, hein, ce qui lui permettait d'avoir des armes et un arsenal tout près du front contre Staline. Et ensuite de faire, d'exemple de ce que pouvait être une nation absolument à la botte du Reich. Et ensuite, Heydrich devait se déplacer en France, faire la même chose de la France, c'est-à-dire faire de la France non pas ce qu'elle a été, c'est-à-dire occupée en deux zones un peu relativement, l'occupation n'a pas été trop brutale en France comparativement à ce qu'elle a été par exemple en Ukraine, en Tchécoslovaquie ou ailleurs, et de faire de la France également, à ce moment-là, un magasin, un grenier pour l'Allemagne, une réserve d'armement, etc. On aurait été ce qu'était la Tchécoslovaquie a été à ce moment-là. Donc Heydrich, c'est la section tchèque de mon service, du Special Operations Executive, qui a été formé et à qui on a confié la mission d'exécuter Heydrich. Ça, c'était une mission absolument indispensable, parce qu'Heydrich constituait une trop grave menace pour l'avenir de la guerre et de l'humanité. Et trois Tchèques ont été formés pour être parachutés en Tchécoslovaquie, à côté de Prague, et monter une embuscade. Vous savez qu'en 1942, en mai 1942, Heydrich, en se rendant depuis son château, en venant à son état-major à Prague, a été exécuté. Il se promenait en voiture découverte, alors qu'il avait lui-même émis un règlement en disant que tous les officiers supérieurs et tous les officiers allemands devaient se déplacer en voiture blindée avec une escorte, etc., gilet pare-balles, etc. Lui estimait qu'il était au-delà de tout ceci et circulait dans une Mercedes décapotable à côté de son chauffeur, bien sûr, sans casque, sans rien du tout. Et donc, il a ramassé une mauvaise grenade dans un virage et Heydrich a rendu sa belle âme au dieu du Reich, est enfermé et la Tchécoslovaquie n'est pas devenue quand même l'arsenal qu'il pensait, et la France a été plus tard épargnée. Voilà une des pratiquement des seules exécutions qui ont été faites à l'époque. Donc nous avions pour consigne de ne pas exécuter l'Allemand. Je me souviens, on nous disait ça en école de préparation, on nous disait c'est pas la peine d'aller tuer un officier allemand ou un Allemand dans la rue, parce qu'à ce moment-là, il y en a 10 000 qui se font tuer par jour sur le front russe, qu'est-ce que vous allez changer? En plus, vous allez tirer sur les populations des représailles, vous allez vous faire mal voir, c'est pas du tout ça qu'on vous demande. Donc nous ne faisions, nous, que du sabotage industriel, surtout. Sabotage industriel, c'est-à-dire des voies ferrées, des ponts, des centrales électriques, des usines, ce que j'ai fait d'ailleurs en 1943. Bon, pour revenir au sujet, si vous voulez, à ce moment-là, à la Tour de l'Orléans, il s'agissait d'organiser Cockade, cette fameuse cocarde. Là. Alors, comment est-ce qu'on organise une fausse opération gigantesque de truc? On l'organise d'abord par la presse, c'est-à-dire qu'on laisse passer des entrefilets dans la presse anglaise, dans les presses neutres, il y avait quand même la Suède, la Suisse, l'Espagne, le Portugal et l'Amérique du Sud. Tous ces pays étaient neutres, dans lesquels il y avait des entrefilets qui passaient avec des concentrations de troupes quelque part en Angleterre, etc. Ensuite, des indiscrétions auprès des diplomates, puisque tous ces pays neutres avaient des diplomates, à Londres, comme à Washington d'ailleurs. Et puis, on faisait surtout faire des indiscrétions à New York et à Washington, parce que les Américains n'avaient pas jugulé leur presse comme les Britanniques pendant la guerre. Les Américains, les médias ont droit de citer, si vous voulez, on n'arrive pas à les juguler. Donc il y avait des indiscrétions qui étaient lancées dans la presse américaine, laissant croire qu'il y avait des troupes qui se préparaient. Il y avait ça. Ensuite, il y avait des agents doubles. Il y a eu, à partir de 1940 et 41, un certain nombre d'agents de l'Abwehr, c'est-à-dire le service de renseignement allemand, qui ont été débarqués en Angleterre de nuit et en Écosse, Et il se trouve qu'on nous l'enseignait d'ailleurs à l'époque en disant « pas un seul agent allemand n'a pas été arrêté ». Donc ces agents allemands étaient retournés, leur poste de radio à ce moment-là était manipulé par des opérateurs anglais qui à ce moment-là passaient ce qu'on appelle de l'intoxication, c'est-à-dire passer à leur service comme si l'agent était encore en vie et opérait des nouvelles, des renseignements secrets, etc., etc., et surtout développer des réseaux entièrement fictifs. C'est-à-dire développer des réseaux entièrement fictifs avec des agents X, Y ou Z auxquels on donnait des grands noms de code en disant « j'ai recruté un tel, un agent dans les postes, dans les chemins de fer, il me dit que un soldat, etc. etc. » Et là, ça a été assez curieux, enfin, ça a fait comique pendant toute la guerre. C'est que pratiquement les services secrets anglais, c'est-à-dire le MI6, à l'époque, le service de renseignement sur l'étranger, a été alimenté en argent par l'Abwehr, le service secret allemand. Parce que comme les réseaux avaient besoin d'argent, ils demandaient de plus en plus d'argent, et les Allemands étaient prêts à payer n'importe quoi pour avoir des agents en Angleterre, donc ils versaient des fonds, et pratiquement les services anglais ont été alimentés en argent par l'Abwehr, par le service secret allemand. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand on est arrivé à Cockade, on a commencé à faire passer des faux bruits par les agents, bien sûr. Et il s'est trouvé qu'il y avait un agent français qui s'appelait Henri Déricourt, que j'ai bien connu d'ailleurs, qui a été utilisé par les services anglais pour pouvoir lancer et coquer où il fallait. Et ensuite, l'opération Fortitude, c'était la deuxième opération de faux renseignements sur un débarquement qui aurait lieu à ce moment-là, celui-là, en 1944, le vrai débarquement, d'abord. Déricourt a été agent triple. Je dirais que nous avons, on peut faire cocorico, on dira le plus grand agent triple de la guerre, ça a été Henri Déricourt en français. Simplement parce qu'il a été parachuté en France, où il s'est mis au service de la Gestapo. Il était en même temps dans mon service, le SOI, il était officier de l'opération aérienne, c'est-à-dire qu'il était parachuté pour organiser les atterrissages des petits avions en France. Vous savez qu'il y a eu pendant toute la guerre un service d'aviation avec des petits avions qui se sont posés en France. Moi-même, je suis parti par un de ces avions au début 1944, qui se posait de nuit sur des champs organisés avec des balisages et qui ramenait des agents et qui apportait des agents en France. En plus des parachutages, les parachutages, c'était dans des gros bombardiers, des bombardiers de 30 tonnes, tandis que ça, c'était des petits avions. Donc Henri Déricourt, et il y a eu comme dans toutes les organisations, les administrations, il y a eu une guerre des polices en France. Vous avez entendu parler longtemps de cette guerre des polices entre la DST, entre la sûreté, entre la police nationale, la police parisienne, les services secrets. Il y a toujours des rivalités. En Angleterre, il y a des rivalités entre le MI6, qui était un service de renseignement, et le SOI, qui était un service action. À ce moment-là, Déricourt manchait un petit peu à tous les râteliers. Et en principe, c'est lui qui devait faire avaler, vraiment, gagner la confiance complète de la Gestapo, de façon à ce qu'il soit l'agent X, l'agent fiable à 100%, qui, lorsque le débarquement aurait lieu, ferait avaler aux Allemands que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais, pas en Normandie, etc. Malheureusement, Déricourt s'est un petit peu trop affiché avec les Allemands, il y a eu des bruits qui sont passés, et le SOI l'a retenu en Angleterre, et il n'a pu pas. À la fin 1943, il a été rappelé au début 1944. D'ailleurs, c'est lui qui a organisé mon départ dans l'avion que j'ai pris moi-même en février 1944. Et il est resté en Angleterre. Du fait de ses indiscrétions en France, il n'a pas pu faire son service, moyennant quoi. Il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, pour revenir à Cockade, c'est une opération qui était tellement difficile à monter que les Allemands ont commencé à en avoir vent. En dépit de tous les efforts qui ont été faits dans la presse et l'indiscrétion, etc., ils s'en doutaient que ça a été le raisonnement d'ailleurs de von Rundstedt, qui était le maréchal chargé du front ouest. J'étais sur le front ouest, et de Rommel qui était chargé de la défense du mur de l'Atlantique et du front sur la Manche et l'Atlantique. Il a trouvé en disant il est pratiquement impossible, en raisonnant, qu'étant donné que les Alliés ont tous leurs moyens de débarquement et les moyens amphibies occupés en Italie, ils n'ont pas de quoi débarquer en France. Donc ils n'ont pas mordu. Et au moment où cette opération a été déclenchée, en septembre 1943, on a fait une grande flotte de débarquement qui est partie des côtes sud-est de l'Angleterre en direction du Pas-de-Calais. Il y a une flotte de, je sais pas, d'une centaine de bateaux survolés par des avions, etc. Et on s'attendait à ce moment-là à pouvoir faire un grand ramdam que la RAF, la Luftwaffe et la Kriegsmarine viennent, qu'il y ait un combat naval, qu'il y ait un combat aérien, et qu'à ce moment-là, évidemment, ça fasse un grand bruit dans la presse de partout, qu'on prétexte que l'invasion avait été repoussée, mais qu'on calme Staline, et que Staline aurait été calmé. Alors la flotte, en septembre 1943, s'est présentée dans, dans la Manche, a fait route avec un grand concours d'avions, de la RAF avec des bombardiers, des chasseurs-bombardiers, tout ça. C'est arrivé au milieu de la Manche en espérant quand même qu'il y avait... Les Allemands avaient venir immédiatement à l'assaut. Ils se sont retrouvés au milieu de la Manche. Ils avaient d'ailleurs consigne de ne pas aller plus loin. C'était un faux débarquement. Et il ne s'est rien passé. Il y a Heinkel 111, un avion allemand qui est venu. Dès qu'il a vu ça, il a fait demi-tour. Personne n'est venu pour attaquer cette flotte. Avec les consignes, la flotte a fait demi-tour. Et Cockhead avait fait un fiasco absolument total. Total. Et Staline, bien sûr, est venu encore plus en colère, hurlait au Kremlin en disant « Vous m'avez trompé, au lieu de m'assister, vous m'avez fait un débarquement bidon, au lieu de venir soulager mon armée rouge qui, elle, supporte tout le poids de la guerre, effectivement. » Enfin, à part l'Extrême-Orient, bien sûr, il y avait quand même la lutte contre les Japonais, il y avait quand même des escarmouches qui se passaient aussi dans les Balkans. Mais enfin, il n'y avait pas de front établi, les Alliés ne se battaient pas à ce moment-là, au début un petit peu dans l'Italie. Donc, à partir de là, on a décidé que le prochain débarquement, à ce moment-là, c'était celui auquel vous avez tous, non pas assisté, mais dont vous avez entendu parler. Alors, celui-là a été préparé absolument de main de maître, a été préparé avec un certain nombre. Alors, exactement, Roquequet a été une répétition, si vous voulez, ce qu'on appelle une couturière, une répétition en uniforme, complètement loupée. On s'est dit, la prochaine, il faut quand même la réussir. Alors là, ça a été une préparation absolument gigantesque. La même chose que Cockhead, en faisant croire qu'il y avait dans le sud-est de l'Angleterre un FUSAG, c'est-à-dire un corps d'armée américain, un énorme corps d'armée américain de 200 ou 300 000 hommes, dans lequel il n'y avait pas le premier, il n'y en avait pas un seul. Hein. Mais pour faire croire à un corps d'armée, la présence d'une grande concentration de troupes dans un pays, c'est à ce moment-là, c'est le trafic radio qui coupe l'ennemi. L'ennemi écoute un trafic radio et suivant le volume du trafic radio, on entend qu'il augmente. C'est donc toutes les unités qui correspondent les unes avec les autres, etc., avec la RAF, avec la marine, etc. Le trafic radio, on a donc mobilisé environ une centaine d'opérateurs radio avec des postes qui ont été disséminés dans tout le sud-est de l'Angleterre et qui ont trafiqué 24 heures par jour. Voilà. Ce qui a fait donner, à ce moment-là, c'est le premier indice donné aux Allemands en disant « il y a quelque chose d'extraordinaire ». Alors ensuite, il y avait dans la presse des fuites, dans la presse américaine particulièrement, toujours, dans les ambassades, dans les cocktails qui se faisaient à Londres, dans des journaux, dans les pays neutres. Particulièrement, il en a trouvé un vecteur qui était merveilleux, c'était Patton. Patton, vous connaissez le général Patton, on l'a connu jusqu'à la fin de la guerre, le héros de la guerre, le Bullish Patton, le Patton à tête de taureau avec ses pistolets d'argent et ses lunettes de soleil. Et on a mis à Patton, était commandant de ce corps expéditionnaire complètement bidon. Alors comme il était commandant, bien sûr, il faisait de temps en temps des déclarations à la presse, mais comme on savait qu'il était, comme était toujours des indiscrétions, il faisait des indiscrétions invraisemblables qu'il n'aurait jamais dû faire, il se faisait engueuler par tout le monde dans la presse, ensuite en disant qu'il oubliait, par exemple, de sceller qu'il y avait une division, un tel qui était à tel endroit, etc. Et puis ça a duré pendant des mois, et ensuite il y a eu, en 1942, les Alliés avait fait prisonnier un général. Rommel était parti à temps, mais au Cap Bon, dans le dernier réduit allemand au nord de la Tunisie, il y a un général von Kramer qui avait été arrêté, qui a été fait prisonnier, etc. C'était un grand général très décoré, allemand, enfin un chevalier prussien. Il est venu à l'idée des gens du MI6, c'est-à-dire les services secrets anglais, de dire on pourrait peut-être s'en servir. Alors, Churchill, dans la presse, a fait publier un article en disant que magnanime, il autorisait le général qui était blessé et qui était malade à être rapatrié en Allemagne. par la Suède. Donc on a sorti le général de son camp d'internement qui se trouvait à côté en Cornouailles, je crois. Et on l'a ramené en voiture jusqu'à Londres. Bien sûr, avant de le libérer, il y avait un interrogatoire qui était fait dans un lieu qui s'appelait Patriotic School. On interrogeait tous les gens qui venaient en Angleterre ou qui en sortaient. Et bêtement, pour le transporter jusqu'à Londres, on a engagé vraiment des idiots complets, parce qu'au lieu de leur mettre une voiture avec tout fermé pour qu'ils ne voient pas les préparatifs d'un débarquement possible, de sceller, de mettre des rideaux aux fenêtres de la voiture ou de l'embarquer dans une camionnette, on l'a mis dans une voiture ouverte avec les fenêtres ouvertes, ils voyaient tout. On lui a mis comme chauffeur et comme accompagnateur des idiots qui croyaient qu'ils ne parlaient pas anglais et qui racontaient en anglais tout ce qu'ils voyaient, les troupes, les chars, etc., qui commettaient des indiscrétions impossibles. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas été fusillés pour dire des bêtises pareilles. Et ensuite, quand il a eu traversé toute cette zone de préparation du débarquement dans le sud-est, cette zone d'opération du FUSAG américain, il est arrivé à ce moment-là à Londres où Patton avait son état-major avec tous ses officiers autour de lui, a dit ça a été un général quand même honorable, un grand chef de guerre, etc. Avant de le libérer, de le laisser, je tiens à le recevoir à ma table, à lui serrer la louche et à dîner avec lui. Bien sûr, il y a eu un grand dîner avec tous les généraux et des officiers américains autour de lui qui parlaient bien sûr bêtement, indiscrets comme sont les Américains. Ils parlaient de leurs unités, de leurs trucs, de leur préparation, de leurs espoirs, etc. Et le général Kramer avait les oreilles qui flottaient en écoutant tout ça. Ensuite, Patton lui a serré la main et on l'a mis dans un bateau suédois qui l'a emmené à Stockholm. Et de Stockholm, bien sûr, il est arrivé en Allemagne, il a foncé à Berchtesgaden chez Hitler pour lui raconter tout ce qu'il avait vu. C'est-à-dire, il avait vu en traversant, il a eu des camps militaires à la perte de vue. Il avait eu des colonnes de chars à n'en plus finir sur les canaux et sur les rivières couvertes de mazout. Il y avait landing craft de débarquement. Il y avait des terrains d'aviation avec des avions partout, etc. Il avait sillonné ça pendant à peu près une matinée entière en se rendant à Londres. Et tout ça, il avait les yeux qui battaient comme ça. Effectivement, il avait vu tout ça. Mais tout ça, c'était des avions en baudriche. Des camps, c'était des étels de bois avec de la toile peinte. Les soldats qui couraient comme des gazelles, c'était des vieux territoriaux qu'on avait déguisés en Royal Marine et en commando, qui cavalaient comme ils pouvaient devant le général pour faire croire qu'ils avaient 20 ans alors qu'ils en avaient 70, etc. Et bien sûr, les faux chalands, tout était faux. Tout était bidon, d'ailleurs. Et bidon qui permettait, si jamais il y avait une reconnaissance allemande, d'ailleurs, par les avions de reconnaissance et photographiés, on découvrait à ce moment-là tout cet arsenal du sud-est de l'Angleterre qui n'existe pas. Donc, quand il est arrivé à Berchtesgaden, il a raconté à Mein Führer tout ce qu'il avait vu. Il dit, oh, vraiment, alors là, les gens sont là, concentrés dans le sud-est de l'Angleterre, dans le débarquement. Voilà. En plus de ça, les agents doubles dont je vous ai parlé, eux étaient en rapport, bien sûr, avec les Allemands. Chacun des agents doubles était manipulé depuis le bunker de Churchill. Churchill est un bunker sous Whitehall, à Charles Street, qu'il avait fait construire à partir de 1950. Il y avait deux étages, je l'ai visité, mais je l'ai visité après la guerre, deux étages sous des dalles de béton où était réuni tout son état-major. Mais en minuscule, hein, il avait une chambre qui était grande comme ça, avec sa salle de bain, parce que Churchill prenait des bains toujours à 3 heures du matin, il serait couché à 3 heures du matin. Quand il avait une idée dans la tête, il sifflait, il y avait donc une secrétaire qui débarquait dans le bunker, ou un général qui s'asseyait à côté de la baignoire, il dictait trop, ou il dictait depuis son lit, parce qu'il se levait à 9 heures, ou 10 heures, toujours. Mais il travaillait dans son lit et dans sa baignoire, et je ne sais pas combien de généraux, je me souviens de femmes de secrétaire qui était outrée quand elle voyait, effrayée quand elle voyait Churchill qui avait une grande envolée qui se levait dans sa baignoire à poil. On l'appelait le cochon rose d'ailleurs. Il ne faisait pas attention. Quant aux généraux, ils repartaient sur le bord de la baignoire quand Churchill faisait des vagues avec le pantalon trempé. Voilà, c'était à peu près ça. Donc c'est ainsi que Churchill travaillait. Et toutes ces les bonnes paroles de Churchill. À ce moment-là, toutes les idées étaient transmises par un brain trust d'intellectuels, mais alors c'est pas du tout à la française, on voit pas des généraux. Il y avait un romancier célèbre, il y avait des médecins, il y avait des hommes d'affaires, il y avait pas mal, 3 ou 4 généraux qui sortaient d'Extrême-Orient, qui parlaient une douzaine de langues, et rien, je dirais, à peu près quand même des farfelus sortant hors du commun, et dont le métier pendant toute la guerre a été de concocter des fausses nouvelles, hein, à faire parvenir au QG d'Hitler pendant toute la guerre. Ils étaient une douzaine, et on l'avait appelé, ce truc-là, le London Controlling Section, la section de contrôle de Londres, ce qui voulait absolument dire, à rien dire. Une fois que les idées étaient concoctées, étaient bien décidées, on faisait des schémas, des fables, etc., qui devaient être colportés par la presse, par les diplomates, par qui voulait, et par les agents doubles. Les agents doubles étaient manipulés par ce qu'on appelle, à ce moment-là, un XX comité, un comité 20. En chiffres romains, on appelait ça le comité 20. Pas le comité 20, en principe, c'est le comité X, c'est 2X comme ça. Et en anglais, 2X, ça veut dire double cross. Double cross, ça veut dire faucheton. C'est un sigle anglais, le 2X, c'est un faucheton. Donc le comité faucheton faisait transférer, avalait, faisait assimiler ces histoires par les agents doubles, et elles étaient, à ce moment-là, transmises et communiquées aux services secrets allemands. Et c'est comme ça que ça fonctionnait pratiquement pendant toute la guerre jusqu'à ce que le débarquement soit un succès. Donc si j'agent, ce que j'écris dans le livre, parce que ça m'a, cette histoire m'a passionné depuis des années, d'ailleurs je l'ai reconstitué, il y en avait qui venaient de partout, des farfelus invraisemblables. Il y avait un nommé Zigzag qui s'appelait Eddie Chapman, qui était un Anglais qui avait été, Chapman avait été... un cambrioleur qui avait été arrêté en Angleterre, qui avait été interné à Jersey, qui était en tôle à Jersey. Et quand il était en tôle à Jersey, ben les Allemands, à ce moment-là, ont pris Jersey en 1940. Et il s'est proposé à travailler pour les Allemands. Puis une fois qu'il a été parachuté en Angleterre, il est allé à l'intelligence service. Etc. Donc ça a été un agent absolument parfait pendant toute la guerre. C'était un affabulateur extraordinaire. Et Chapman, par-dessus le marché, c'était un poivron, mais sérieux. Enfin, il a rendu des services absolument considérables. Il y a un autre agent, enfin dans les grands agents doubles, Dusko Popov, qui était un Yougoslave, qui lui aussi a proposé ses services aux Anglais, qui était le fils d'armateur extrêmement dynamique et riche d'ailleurs, qui était un playboy absolument invétéré, hein, qui coursait les femmes partout. Et qui lui aussi faisait des allers-retours entre l'Allemagne, la Madrid, Lisbonne, où il avait des officiers traitant allemands, il traitait, puis rentrait en Angleterre avec une couverture de neutre, si vous voulez, et à ce moment-là, il a intoxiqué les Allemands. C'était un des grands agents secrets au service de l'intelligence service. Et le troisième a été un nommé Garbo. Garbo était au contraire un petit Espagnol, tout à fait insignifiant sur tous les... sur toutes ses faces, qui, lui, avait été à un moment donné recruté, il avait été incorporé dans l'armée de Franco, ça lui a aidé plus. Il n'était pas communiste, il était libéral, Franco, vraiment, là, ça lui déplaisait. Et à un moment donné, il s'est mis à haïr les dictateurs, à partir de 1939, les dictateurs Franco, Hitler, etc. Il est arrivé à force de peine et de difficultés à être engagé par le MI6. Il s'est vraiment imposé au MI6, qui n'avait rien à faire d'un petit bonhomme insipide qui dit « je peux vous aider, mais en quoi ?» Un petit Espagnol de rien du tout. Tout ce qu'il avait fait dans sa vie, il avait monté un élevage de poulets, il avait fait faillite. Alors, ce n'est pas une référence extraordinaire. Mais en fin de compte, il a été engagé par le MI6. Ça a été le plus grand agent double de la guerre. Il est rentré absolument dans les faveurs de la beurre auquel il a offert ses services après avoir servi au MI6. Et il a été payé par les deux services pendant des années et des années. C'est lui qui pratiquement a fait passer le dernier faux bruit sur le débarquement. C'était Garbo, voilà. Alors, ces gens-là étaient développés, les uns passaient entre l'Angleterre, certains, dont un Américain, une Chilienne, une Russe blanche, Lily Sergeyev, qui étaient des statuts de neutre et qui pouvaient passer via l'Espagne ou le Portugal entre l'Angleterre et la France et l'Allemagne, donc qui allaient rendre compte à l'hôtel du Tessier à Paris, par exemple, ou à Madrid, ou à Lisbonne, de les résultats de l'espionnage qu'ils avaient fait en Angleterre, et puis ensuite qui revenaient en Allemagne et qui faisaient des va-et-vient pendant toute la guerre entre ces pays-là, la plupart sans être pris d'ailleurs, ils ont parfaitement fait leur travail. Donc, on en est arrivé au moment où le débarquement était très près de se déclencher, parce que cette opération débarquement qu'on appelait Overlord, c'est-à-dire le suzerain. Dans Overlord, vous aviez une opération Neptune, c'était l'opération purement maritime qui devait se développer. Et il fallait faire passer Overlord dans le Pas-de-Calais, Neptune dans le Pas-de-Calais, hein, avec une diversion qui était le Neptune de la Normandie, qui était le vrai. Donc, il y avait des messages qui s'échangeaient de plus en plus. Et à ce moment-là, à peu près à la dernière minute, c'est-à-dire en juin 1944, moi, j'avais fait une mission en France jusqu'en février 1944, puis j'étais revenu après, en convalescence, j'avais été blessé par les Allemands. Donc j'ai assisté à toutes les préparations du débarquement en Angleterre. C'est-à-dire, comme on disait entre nous, on ne savait pas quand le débarquement aurait lieu. Nous, on était dans le secret était très bien gardé, ni où il avait à avoir lieu. Mais enfin, quand on raisonnait, quand on était officier dans les services secrets anglais, on disait, c'est quand même le printemps prochain, c'est à peu près mûr. On voit à peu près ce que devient l'Angleterre. La concentration de troupes et d'armement était tellement considérable. On dit, s'il faut que ça se dégage un jour ou l'autre. Donc ça va être au beau jour, au printemps. On pense que ça va être sur les côtes de France et tout. Bon, et on s'est retrouvés dans ces conditions. Nous étions vivants en Angleterre. Donc j'ai assisté à toute la préparation du débarquement. Et il s'est trouvé que, par hasard d'ailleurs, j'avais une mission de support au maquis communiste de Limousin. Le maquis communiste de Limousin qui était organisé, mais qui n'était pas armé, mais voilà, un réservoir d'hommes considérable. Donc, on était prêt, une équipe de quatre dont je faisais partie, allait être parachutée dans le Limousin. Donc, j'ai trouvé que notre préparation a été faite à peu près au printemps et qu'on s'est trouvé en stand-by, c'est-à-dire prêt à partir de juin 1944. Au début juin, on a fait un ou deux départs parce qu'à l'époque, les voyages Angleterre-France, ce n'était pas très bien réglé, Air France n'existait pas. Le tunnel sous la Manche, je ne crois pas non plus, il me semble pas que je m'en sois servi. Même les ferries ne marchaient pas très bien. Hein. La météo, les Allemands ne la donnaient pas facilement non plus. Hein. Et la DCA non plus. Donc, quand on partait, il y avait toujours, en plus comme les transmissions d'ordre des gens qui vous recevaient sur le terrain en France, sur un terrain, un petit terrain, une DZ, ce qu'on appelait, les transmissions avec les orages et tout ça, en code, vous savez, et en morse, ça ne marchait pas toujours. Il y avait souvent des tas, comme on dit en vietnamien, des macouilles, c'est-à-dire des mauvais génies qui se mettaient là-dedans, et on n'arrivait pas toujours à l'heure. Donc, on a fait un ou deux voyages sur la Manche jusqu'à ce qu'on arrive quand même un beau jour à pouvoir sauter. Et la tentative avortée, la dernière, a eu lieu le 5 juin, dans la nuit du 5 juin. C'est-à-dire, on a décollé par hasard à 1h du matin dans un Liberator, c'est-à-dire un bombardier de 30 tonnes. C'était notre 4 chevaux de l'époque, à nous, les agents. Sans une mitrailleuse à bord, parce que l'avion, on l'allégeait le plus possible pour pouvoir transporter des conteneurs d'armes pour le maquis et du carburant, parce qu'il y avait des fois, aller sur la France et revenir avec le mauvais temps, là, des fois, ça prenait des heures et des heures, donc avoir une grande autonomie, l'avion devait avoir une grande autonomie. Et on est parti sur la France le 5 juin, à 1h du matin environ, et puis on est parti, on est arrivé. Comme on faisait toujours, on avait l'habitude d'ailleurs, quand on était assez philosophe, c'est de jouer au poker à quatre. Quand on était quatre agents ensemble, on jouait au poker. Quand on était trois, on ne jouait pas. Mais à quatre, on organisait une table de poker sur un colis et puis on a tapé le carton pratiquement jusqu'à Limoges pendant 2h30, 3h. Arrivé au-dessus de Limoges, le capitaine, c'est-à-dire le pilote, nous a dit, vous savez, il n'y a pas de comité de réception, il n'y a pas de lampe en bas, on rentre. Alors on a dit, on a fait demi-tour à ce moment-là. Là, on avait assez de jouer au poker, on met son parachute par terre comme oreiller, puis on dort jusqu'à Londres. On est rentré en Angleterre. En Angleterre, on s'est posés, on est allé directement se coucher parce qu'on était debout, sans dormir depuis la veille, ou un peu dans un avion assez inconfortable. On est arrivé, on s'est avachi dans notre chambre, et c'est à midi quand même qu'à ce moment-là, il y a le Batman de l'ordonnance qui a glissé un journal sous la porte où il y avait marqué « D-Day ». Donc, ce que je dis, je vais cette année d'ailleurs inviter, aux côtés probablement de la reine d'Angleterre, à D-Day, parce que je suis un des héros qui a participé à D-Day, c'est-à-dire j'ai participé à D-Day dans un avion, bien sûr, il n'y a pas de mitrailleuse, mais en jouant au poker, en dormant, et sans savoir que le débarquement avait lieu. Alors, je ne lui dirai pas la Queen, quand même. Hein. Je serai quand même avec les gens qui vraiment ont débarqué à côté, mais je me tairai, là. Enfin, je suis invité pour ça. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est cette nuit-là, donc, cette nuit-là a abouti pour nous à cette espèce de plaisanterie, de survoler 5000 bateaux qu'il y avait par terre, voler en 2000 avions et avoir 140 000 personnes qui débarquaient en dessous et nous, les harpions d'éventail, en dormant ou en jouant au poker aller-retour. Cette nuit-là, quand même, il s'est passé une chose assez extraordinaire. Le débarquement était déjà repoussé de 24 heures. Vous savez, la météo était tellement mauvaise, mais enfin, il y a les agents météo anglais et américains ont dit tout à l'heure, il y aura un trou. Le 6, je pense que vous aurez une chance le matin, une chance entre les marées, vous allez pouvoir débarquer. Il y aura un peu de temps clair. C'est le temps qui est absolument pourri. Hein. C'est extraordinaire. On a dit, bon, bah, ça devrait, a dit à Montgomery, on y va. Montgomery a dit, no problem, on y va. Bon, c'est comme ça que ça s'est décidé. Je crois, le 5, dans la nuit, un conseil d'état-major à 3 heures du matin. Vous voyez, c'était à peu près ça. Tout le monde a dit, bon, bah, on y va. Et tout le monde est parti. Il fallait 24 heures pour acheminer les bateaux, etc. etc. Et tout le monde s'est trouvé à débarquer. Voilà. Et par extraordinaire, cette nuit du 5 juin, Hitler avait reçu un ministre ou un ambassadeur, d'ailleurs, et il s'était couché assez tard. Hitler, à Berchtesgaden, dans son nid d'aigle là-bas, en principe, était végétarien, il ne mangeait pas de viande, il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas. Ça, c'était... mais ça avait été assez joyeux, il avait fait jouer du Wagner, etc., comme il aimait bien, il adorait Wagner. Et puis, il s'était couché très tard, à minuit, il avait dit à son valet que personne ne me réveille. Et donc, les troupes ont débarqué à partir de 6 heures du matin, vous aviez l'invasion du siècle sur les plages de Normandie, et jamais personne n'a osé réveiller Hitler. C'est-à-dire qu'il était le commandant en chef des armées. Il était Gefreiter pendant la guerre de 14-18, c'est-à-dire qu'il était caporal ou staffette. Il ne tirait même pas, Hitler n'a pas tiré un coup de fusil pendant la guerre. Il avait deux croix de fer, quand même. Ça avait été un héros pendant la guerre de 14-18. Mais il était en estafette, il portait des dépêches, il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de radio. Donc les dépêches entre les unités, donc il traversait les zones de combat, le no man's land avec ses dépêches, etc., etc. Mais à partir de 1942, il a commencé petit à petit, après avoir envahi l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, être allé jusqu'à l'Allemagne et jusqu'à Stalingrad, il a pensé que c'était un grand maréchal. Donc Hitler s'était institué chef des armées, chef d'état-major de la Wehrmacht, c'est-à-dire de toutes les armées allemandes. Et aucun maréchal à l'époque, qui avait fait quand même quelques études guerrières, n'avait le droit d'intercéder. Donc il se réservait le droit, personne n'avait le droit de déplacer une unité sans demander au Führer. Alors sa vision des choses pour un caporal staffette d'un front à 1000 km, ça pouvait être de temps en temps biaisé. Hein. Si par-dessus le marché, il disait qu'il voulait dormir et que personne n'osait le réveiller, parce qu'il y avait autour de lui, il avait son état-major, des généraux. Donc quand la nouvelle est arrivée que le débarquement avait lieu, vous pensez, le débarquement du siècle, que tout le monde arrivait, les réactions devaient être des réactions à la seconde près de la part des généraux, des admiraux, déplacer des unités, des panzers, des flottes, des escadres aériennes, c'est à la seconde, quand vous avez en temps de guerre, vous avez quelque chose comme ça qui soit là. Pas du tout, Keitel, qui était là, son chef d'état-major, dit « Enfin, il faut réveiller Hitler, il y a le débarquement !»« Pas question !» Et Hitler, qui était un insomniaque fini, avait pris, bien sûr, à minuit, un paquet de somnifères, et il s'est réveillé à 10 heures du matin. À 10 heures du matin, donc, la troupe avait débarqué depuis 4 heures, et pas une division blindée qui se trouvait non loin de là n'avait bougé. Ce qui fait que les 140 000 hommes qui ont débarqué ce jour-là, et j'ai pas mal d'amis, moi, qui ont débarqué ce jour-là, qui m'ont raconté l'histoire, c'était pas de la tarte, hein. C'était pas un débarquement, c'est pas ce qu'on voit là, sur les plages avec les gars, c'est que chaque homme qui débarquait, d'abord vous aviez des plages de Normandie jusqu'entre l'Orne et le Cotentin qui étaient défendues par des asperges romaines, c'est-à-dire des pieux avec des mines qui éventraient les chalands qui se posaient, fallait passer entre les champs, vous aviez ensuite tout le mur de l'Atlantique qui tirait dessus, vous aviez les défenses allemandes. Pas de Luftwaffe. Heureusement, la Luftwaffe était clouée par la RAF, évidemment, qui avait complètement la couverture aérienne, était aux alliés. Hein. Mais quand ils débarquaient, entre marée basse et marée haute, à ce moment-là, les gens débarquaient avec de l'eau jusque-là, si les chalands ne pouvaient pas arriver, ils n'arrivaient pas là. Et ils avaient chacun entre 20 et 40 kilos sur le dos, avec les armements, les munitions, etc. Et il y a eu énormément de noyés, parce qu'ils descendaient, il y avait des trous d'eau, ils tombaient dedans. Et des gens qui débarquent, si vous voyez des films de l'époque, tout le monde tire dessus, il n'y en a pas un qui va plus vite. Hein, ils avancent comme ils peuvent avec leurs 40 heures. Ils tombent, celui d'à côté tombe et continue à progresser. Donc, s'il y avait eu quelques divisions blindées de plus à cette époque-là, dites-vous bien que les débarquements étaient absolument impossibles. Personne n'aurait pu débarquer. Et là, grâce à Hitler, qui a demandé qu'on ne le réveille pas, jusqu'à 10 heures du matin, rien n'a été fait. Et à ce moment-là, bien sûr, la von Rundstedt a demandé l'autorisation, et Rommel ont demandé l'autorisation de déplacer des divisions blindées qui se trouvaient dans le nord, qui étaient autour, à 100 km de là, de venir en renfort tout de suite. Et c'est à ce moment-là que les agents doubles ont joué leur jeu, donc particulièrement Carbo. Parce qu'on a monté un coup, c'est-à-dire que un des officiers du comité XIC a dit si on faisait passer à Hitler un message qui lui arrive à 6h30 du matin, c'est-à-dire au moment où le débarquement a lieu, à Berchtesgaden, donc il n'y aurait eu aucune réaction, en lui disant, un agent lui dit « Attention, c'est le débarquement !» Parce qu'il attendait, il ne savait pas quand il allait avoir lieu. C'est le débarquement. À ce moment-là, cet agent devenait absolument infaillible. On se dit, ah ben, il y a 100%. Donc, l'agent Garbo, lui, on lui a fait passer un message à faire passer à la mer en disant, le débarquement a lieu. Et Churchill a autorisé ce message à être transmis depuis Madrid à 3h30 du matin. Parce qu'à 3h30, le temps que le message soit transmis jusqu'à Madrid, pour arriver jusqu'à Berchtesgaden, il fallait 3 heures, on le savait. Donc, si on était à 3h30, il arrivait à 6h30 au moment du débarquement, donc c'était trop tard pour faire quoi que ce soit. Mais à ce moment, il avait dans la tête une idée, il était complètement intoxiqué par cet agent merveilleux qui lui disait « c'est ça, c'est vrai ». Et malheureusement, les Anglais, à ce jour-là, au matin, le poste, la station radio allemande de Madrid est restée endormie et n'a ouvert qu'à 8h du matin. Donc il y avait des Anglais qui vraiment étaient en rage contre les Allemands, ces idiots d'Allemands qui n'ouvrent pas leur poste alors qu'on veut transmettre un message et qui n'arrivaient pas. Donc le message est quand même arrivé à 9h du matin, à peu près chez Hitler. À 9h du matin, donc il a reçu le message au moment, à 10h quand il s'est réveillé, en disant le débarquement a lieu, mais vous avez un agent en Angleterre qui vous a signalé le débarquement. C'est absolument extraordinaire, il dit extraordinaire, etc. Donc il a commencé avec von Rundstedt à prendre les divisions qui se trouvaient aux alentours, au nord de la Seine, un peu partout, et à leur demander de faire route vers la Normandie. Et à ce moment-là, quelques heures plus tard, le Garbo, l'agent infaillible, a envoyé un message en disant « je me suis trompé ». Ce débarquement n'est qu'une diversion. Le vrai débarquement va avoir lieu dans le Pas-de-Calais. Hitler, il a repris ses divisions. Il a dit, allez, au nord de la Seine, ne bougez pas. L'invasion va venir là-bas, c'est pas la peine de bouger. Et à ce moment-là, le débarquement a eu lieu. Et faute de pouvoir réaliser, les Alliés ont pris pied en Normandie. Et vous savez ce qui s'est passé après. Ils sont arrivés jusqu'à Paris. Et la guerre a été gagnée grâce, on peut dire, à cette intoxication qui s'appelle fortitude. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Eisenhower avait demandé à Churchill, à un moment donné, il était au courant, Eisenhower, il gouvernait, il commandait toutes les troupes alliées, lui. Il a dit, je vous demande une chose, si vous pouviez, avec vos agents secrets, là, et vos intoxications, faire croire à Hitler que ça dure seulement pendant 8 jours, ce serait merveilleux. Et fortitude, Hitler y a cru pendant 2 mois. D'ailleurs, pendant 2 mois, il n'a vraiment pas porté sur l'offensive, la vraie offensive alliée, il n'a pas porté tous ses effectifs de la Wehrmacht qu'il aurait pu porter, c'est-à-dire toutes les divisions blindées. C'est pour ça que vous avez vu quand même cette invasion qui a quand même bien réussi, puisque les Alliés étaient à Paris au mois d'août, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Ça a été absolument extraordinaire. Voilà ce qu'a été Fortitude, et que j'écris dans mon livre avec beaucoup plus de détails, parce qu'il y a des bouteilles tellement croustillantes sur les jachères en double, tous les coups fourrés qui sont faits, vous imaginez, ça a été pendant 2 années complètes, ça a été un travail de sape, un travail d'intoxication, un travail de faux messages, etc. C'était absolument extraordinaire. Voilà. Bon, je vous ai tout dit. Bah maintenant, comme je vous ai tout dit, c'est pas la peine d'acheter le livre. Vous savez tout. Voilà.